BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
Parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours et que la blockchain en est une fraction. Les pros des cryptos, on parle des crypto-monnaies, des crypto-actifs chaque vendredi avec nos trois experts. Nicolas Chéron, toujours avec nous pour Zone Bourse. Charlie Perrault également vient de nous rejoindre. Bonjour Charlie, ravi de vous retrouver. Le journal du net, le JDN, et Owen Simonin, alias Asher, et sa chaîne YouTube. Bonjour Owen.
Bonjour.
Bienvenue à tous les trois. On rappelle, les crypto-monnaies, c'est de l'ultra-diversification évidemment. N'y investir que l'argent dont vous n'avez tout simplement pas besoin. D'ailleurs, on a vu cette volatilité se manifester ces dernières semaines, très impressionnante. Nicolas, moins 50, moins 70% sur certains crypto-actifs. Quand on est investisseur, comment est-ce qu'on doit gérer ces phases-là et comment est-ce qu'on doit anticiper la suite ?
Alors, quand on est investisseur, on doit étudier le marché sur lequel on se place. Et donc, on doit regarder les historiques des prix des actifs sur lesquels on souhaite prendre position. On va ainsi donc ouvrir un graphique du Bitcoin sur les 8 dernières années et se rendre compte de deux choses. D'une part, une hausse absolument stratosphérique, mais d'autre part, des phases de hausse et de baisse qui s'enchaînent avec des corrections qui peuvent aller de 60 à 80%. C'est déjà arrivé une dizaine de fois. Partant de ce principe, ce qu'on a essayé d'expliquer tous ensemble au début de cette émission, c'est que si on faisait du trading, il y a de grandes chances de se faire avoir par ces mouvements de volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, des tweets d'Elon Musk qui engendrent de la volatilité très forte. Donc, on ne veut pas faire du trading. D'ailleurs, petit chiffre, dans cette baisse des cryptos récente, on a eu quand même 10 milliards de dollars liquidés sur à peu près 1 million de comptes. Donc ça, en fait, c'est tous les traders qui étaient arrivés tardivement, qui ont mis de l'effet de levier, qui sont rentrés n'importe comment et qui se sont fait littéralement rincer. Or, tous ensemble, quand on a commencé cette belle émission, en début d'année, nous avons préconisé une façon d'opérer. Nous sommes partis du principe qu'un investisseur actif et curieux allait pouvoir rentrer sur les cryptos et allait donc pouvoir mettre 1, 3, 5, 10% de son portefeuille dessus avec une méthode qui s'appelle DCA, le Dollar Cost Average, c'est-à-dire que nous allons acheter tous les mois, gentiment, de cet actif.
C'est l'investissement progressif.
C'est ça. Et en partant du panier qu'on avait proposé en janvier, c'est-à-dire 30 à 40% de Bitcoin, 30 à 40% d'Ethereum et 30% d'Altcoin, la performance d'un investisseur individuel qui aurait suivi cette méthodologie est entre 20 et 60% de performance. Ce qui n'est pas mal. D'ailleurs, beaucoup disent que c'est un marché baissier maintenant sur les cryptos, c'est la fin du monde parce qu'ils ont les yeux rivés sur le Bitcoin. Mais rappelons que la capitalisation boursière mondiale a débuté à 750 milliards en début d'année. Nous sommes à 1750 milliards. Nous sommes toujours donc en hausse de 150%. Donc voilà, ne faisons pas de trading, faisons de l'investissement programmé, progressif.
Ça s'appelle remettre l'église sur la place du village. La suite, comment est-ce que vous la voyez pour les prix du Bitcoin et des crypto-monnaies ? On est à 36 000 dollars là sur le Bitcoin. Est-ce qu'on a vu le point bas d'après vous ?
Ah, j'ai oublié ma boule de cristal, mon cher. Alors, on ne va pas jouer aux devinettes parce que je ne sais pas ce que Elon Musk va tweeter demain matin en se levant du pied gauche. Nous sommes actuellement dans un range, c'est-à-dire une consolidation horizontale entre un seuil psychologique à 30 000 et un autre à 40 000. Donc, on va attendre tout simplement la sortie de cette zone de congestion. Est-ce qu'on va de nouveau se faire des frayeurs avec la Chine ou Elon Musk qui vont engendrer un nouveau rinçage sous les 30 000 dollars ou est-ce qu'on va réussir à casser les 40 000 dollars et à repartir de l'avant grâce à l'adoption massive des crypto-monnaies ? Je n'en ai aucune idée, mais à vrai dire, puisque ce que je viens de vous dire, c'est que ce qui nous intéresse, c'est l'investissement programmé pour des trimestres, voire des années. À quoi bon essayer de savoir où sera le Bitcoin le mois prochain ?
On va continuer d'en parler. Je vais quand même vous reposer la question un peu plus tard, malgré tout, Nicolas. L'actu des crypto-monnaies, bien sûr, elle va aussi au-delà des cours du Bitcoin. On évoque de plus en plus la numérisation des monnaies. Numérisation en passe de se généraliser peut-être. La Banque Centrale Européenne a publié un rôle international de l'euro. On y parle de ces monnaies numériques de banque centrale. On les appelle en bon anglais les CBDC. Quel avis la Banque Centrale Européenne pose-t-elle sur ces monnaies numériques, les CBDC ? Monnaie numérique de banque centrale, Charlie.
Oui, effectivement, c'est plutôt positif. Alors qu'il y a quand même pas mal, ils ont publié plusieurs rapports sur l'euro numérique, hein, et c'était plutôt descriptif, et même un peu, il y avait beaucoup de peut-être, et si on lançait, on va y aller si nécessaire. Enfin, on n'avait pas vraiment d'avis très clair sur le sujet. Et là, enfin, on a un avis qui dit que, en plus, alors je cite parce que vraiment, c'est assez marquant, ils disent que les risques pour la stabilité, si une banque centrale ne propose proposent pas de monnaie numérique, voilà, il y a des risques sur la stabilité. Donc c'est assez fort. Et ils disent que, aussi qu'une CBDC contribuerait à maintenir l'autonomie des systèmes de paiement nationaux et l'utilisation internationale d'une monnaie dans un monde numérique. Donc c'est quand même assez fort, je trouve, comme signal. Ils sont voilà, très réceptifs. Dans le rapport, on voit aussi qu'ils parlent beaucoup tous les avantages d'une CBDC. Donc évidemment, sécurité, les coûts de transaction qui sont moins élevés, la programmation, le partage des données de paiement, enfin beaucoup de choses. Plein d'éléments en fait qui vont favoriser un peu l'adoption en fait d'une monnaie internationale, et parce qu'on sait aujourd'hui que la prochaine bataille va être est-ce que la monnaie de référence sera, enfin l'e-monnaie de référence sera le e-dollar, le e-euro ou le e-yuan. Donc en fait c'est tout ça l'enjeu. Donc voilà, la souveraineté. Et faut pas oublier aussi que il y a aussi les géants de la tech qui sont aussi en train de s'emparer de ces sujets. On parle beaucoup des GAFA, Google, Facebook, mais aussi les géants asiatiques qui ont déjà en plus un gros train d'avance.
C'est surprenant de voir la Banque Centrale Européenne émettre un avis si positif sur les monnaies numériques de banque centrale, Owen ?
Surprenant, non. On avait déjà Christine Lagarde qui avait dit en novembre de l'année dernière que d'ici 4 ans, il y aurait un euro numérique, sans donner la forme. On avait également la Banque Centrale Européenne qui avait annoncé vouloir un droit de veto sur ces fameuses stablecoins adossées à l'euro. Donc naturellement, c'est la préparation d'un terrain pour pouvoir se positionner. On voit de plus en plus de géants à l'international se poser des questions pour leur monnaie. Et on voit la performance de la blockchain, que l'on aime ou non certaines crypto-monnaies. La technologie de la blockchain peut être rapide, peut être très peu coûteuse et peut permettre de se dédouaner de certaines limites techniques pour être encore plus performant. C'est donc pas étonnant de voir ce positionnement-là.
On parle de ces devises numériques de banque centrale, les CBDC, dans le jargon, comme si c'était très connu. À quoi ça va servir, les CBDC ?
Alors, déjà, ça va permettre du coup de changer de support. On a le fameux support cash, le papier qu'on connaît, un certain support numérique, mais qui n'est pas maîtrisé par tout le monde, et ça va permettre aussi une certaine accessibilité. Déjà, on va pouvoir payer très rapidement et de façon très très peu coûteuse sans certains tiers. On ne sera pas obligé de passer par certaines entreprises qui vont permettre des différentes solutions pour pouvoir payer. Un particulier pourra s'adresser directement à un commerçant sur un paiement simple depuis cette fameuse cryptocurrency, cette fameuse CBDC ou cette monnaie adossée à l'euro, quel que soit le nom qu'on lui donnera à ce moment-là. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que ça permettra à ces particuliers de les stocker directement. Chaque particulier pourra lui-même être sa propre banque. Encore une fois, c'est très très dur aujourd'hui de répondre à quoi ça servira. Pas simplement parce qu'on ne sait pas exactement comment sera la technologie. Des blockchains, il y en a beaucoup. Et si on utilise la technologie de la blockchain, on doit voir quelles seront ses caractéristiques pour pouvoir dire à quoi ça va permettre. Et puis encore une fois, c'est bien beau d'être sa propre banque, mais du coup, certains établissements financiers ne proposeront plus les mêmes services. Donc il y a vraiment plein de choses que l'on va devoir attendre, de pouvoir constater, avant de pouvoir réellement dire quel sera l'usage de ces fameux CBDC.
Un siècle de rupture dans lequel on est en train d'entrer. Est-ce que l'Europe, Charlie par exemple, pour essayer d'aller encore plus loin sur les usages des CBDC, ces devises numériques de banque centrale, est-ce que l'Europe, d'après vous, se dirige plutôt vers un euro digital interbancaire ou un euro digital destiné au grand public ?
Oui, parce que c'est vrai qu'Owen a beaucoup insisté sur le grand public, et voilà, puisque déjà ton audience est plus voilà, chez les particuliers, mais aussi l'interbancaire, effectivement, donc les échanges entre les institutions financières. Et d'ailleurs, c'est par là qu'est rentrée l'Union européenne, en particulier la BCE. C'est vraiment sur l'interbancaire, parce qu'au début, ils y allaient un petit peu à tatillon, donc c'était un peu plus prudent pour eux. Et au final, d'ailleurs, c'est même la Banque de France qui a fait beaucoup d'expérimentations dans le cadre des réflexions de la Banque Centrale Européenne et qui a mené des expérimentations avec pas mal d'acteurs de l'industrie crypto, mais aussi des banques. Hein. Mmh. On en parle beaucoup aussi de Société Générale, notamment. Et voilà, il y a eu pas mal de choses sur notamment le paiement en monnaie, donc de banque centrale, contre livraison d'instruments financiers cotés ou non cotés. On a eu des émissions d'obligations, enfin, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, on parle plus d'euro digital, dit euro, et il y a d'ailleurs la Banque Centrale Européenne qui a publié récemment, il y a quelques semaines je crois, une consultation publique. Voilà, ils avaient un petit peu appelé pas mal d'acteurs à savoir voilà, quels sont un petit peu les enjeux autour de l'euro numérique. Alors évidemment c'était plutôt favorable puisque voilà, tous ceux qui ont participé j'imagine étaient plutôt pour. Mais voilà, ils posaient aussi les questions pas mal de questions autour, et ce qui ressortait beaucoup c'était notamment les questions autour de la protection de la vie privée évidemment, et de la sécurité, un des termes qu'on aime beaucoup discuter en Europe.
Et on imagine que derrière, en tout cas, ces devises numériques de banque centrale, que les grands pays, les grandes places tentent de mettre en place, justement, et d'organiser, de construire, de dessiner, il y aura de la blockchain. Derrière tout ça, c'est de la blockchain. Ah non.
Alors,
oh là, je vous sens.
Globalement, c'est très barbare, mais il y a déjà des différences entre blockchain, ce qu'on va appeler un registre décentralisé, et c'est ce qui fait que, du coup, je rebondis sur ce que j'ai dit précédemment, c'est très très dur de répondre à ces questions sans savoir exactement quelle sera la nature technique, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens dans le monde de la blockchain. Les gens voient la blockchain et l'illustrent beaucoup avec le Bitcoin. C'est décentralisé, c'est transparent, rien ne nous dit. Et d'ailleurs, pour des raisons de gestion, ça ne pourra pas être totalement décentralisé et totalement transparent. Donc en réalité, on va devoir attendre de constater réellement quelle sera la première proposition et les premiers usages de ces CBDC pour pouvoir réellement dire oui, c'est une blockchain ou pas tout à fait.
Bon, après, tu imagines quand même que la BCE ne va pas...
Pour le coup, il y a certaines réponses qu'on a déjà aujourd'hui, oui. Mais je préfère rester optimiste.
L'Europe, elle est à la traîne ou pas sur cet enjeu des CBDC par rapport à la Chine ou aux États-Unis, par exemple?
Pas tant que ça. Après, on va dire, non, ils entament les réflexions, mais en fait, ils ont des stades, enfin, les pays ont des stades tous plus ou moins, on va dire, avancés. Il y a une enquête de la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui a été menée en tout début d'année et qui recensait 86% des banques centrales qui étudient activement le potentiel aujourd'hui des CBDC. Il y en a 60% qui l'expérimentent et 14% qui déploient. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas dans les 14%, mais voilà, on est déjà en train de, en tout cas, en pleine réflexion. Et c'est vrai que parmi les pays, on va dire, les plus avancés, on va dire, globalement, peut-être sur l'interbancaire, ça va être les pays asiatiques. Il y a la Thaïlande, Singapour et Hong Kong qui sont devant. Et sur tout ce qui est donc pour le CBDC, pour les particuliers, là, on a la Chine, le Cambodge et l'Ukraine. Et plus récemment, là c'est paru je crois tout début de semaine, la Banque Centrale de Suède qui a annoncé donc qu'elle allait mener des travaux avec la plus grande banque du pays dont je ne vais pas prononcer le nom. Mais voilà, ils vont tester.
Dommage, ça aurait été rigolo. Mais...
Et ils vont tester l'intégration justement de cette monnaie, donc cette e-couronne. Et c'est vrai que c'est vraiment des réflexions qui mènent depuis très très longtemps. Et le gouverneur de cette banque centrale est assez pro e-crypto.
Oui, on voit qu'il y a beaucoup de pays là qui sont en train de se lancer. La Chine donne le là, va donner le là ou pas, Owen?
Probablement, parce que c'est les premiers à s'être positionnés. Après, ce qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, on peut juste faire un constat médiatique, réellement. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a été annoncé? Comme c'est des enjeux qui sont très politiques et très stratégiques, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certains pays qui développent certaines initiatives et qui les gardent bien secrètes. Donc, c'est toujours très compliqué de savoir quel sera le premier à se positionner et à dire, nous partons sur une monnaie numérique, digitale, CBDC, quel que soit le nom qu'on met derrière, et nous allons numériser notre monnaie nationale.
Bon, et il y aura des concurrents aux CBDC, aux banques numériques des banques centrales?
Alors,
monnaie numérique des banques centrales.
Concurrence, ça va dépendre quel sera l'objectif. Encore une fois, on a déjà des stablecoins qui ont des grosses valorisations à l'échelle de la crypto-monnaie. Je parle par exemple de Tether qui propose aujourd'hui une crypto-monnaie qui a été valorisée à plus de 100 milliards durant les pointes de ce marché. Donc globalement, il y en aura, oui. On a également Coinbase avec l'USDC. Donc il y a de plus en plus d'entités qui, une fois régulées, se permettent de l'émettre. D'autres qui se permettent également d'en émettre sans être régulées. Encore une fois, de là à dire que ça concurrencera les monnaies nationales, c'est impossible. Mais en attendant, oui, il y aura beaucoup de gens sur ce marché, évidemment.
Voilà, les CBDC ou DWAP, c'est devise numérique des banques centrales. Donc, il y a un autre sujet dont il faut qu'on cause cette semaine ensemble pour mettre les choses au clair. On parle tout le temps de Tesla, des crypto-monnaies, mais il faut qu'on parle cette fois de Google et les crypto-monnaies. Google revoit sa politique publicitaire concernant les plateformes d'échange et les wallets crypto. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que ça va changer, Owen?
Déjà, c'est un signal, parce que Google, depuis 2018, avait dit c'est terminé, plus de publicité sur la plateforme Google, ce qui n'était pas totalement le cas de YouTube. Pourtant, c'est la même entité, mais il y a toujours eu des petites nuances avec lesquelles certaines sociétés de marketing ont pu jouer. En attendant, Google a expliqué que d'ici le mois d'août, donc très bientôt, certaines publicités, dans certaines conditions, principalement pour parler des places d'échange de crypto-monnaies, mais également des différents prestataires qui proposent des portefeuilles pour conserver leurs crypto-monnaies, vont pouvoir réaliser de la communication.
Qu'est-ce que ça va changer, ça? Vous êtes porteur vous-même d'une chaîne YouTube, pas n'importe laquelle, hein, la plus suivie dans l'univers francophone, consacrée aux crypto-actifs. Quelles conséquences ce changement, par exemple, cette politique, ce choix, cette stratégie de Google pourra avoir sur votre business, pour vous, par exemple, chez Asher?
Je pense que ça ne nous affectera pas directement, encore une fois, parce que c'est YouTube et c'est des politiques un petit peu différentes. Mais globalement, savoir que Google se positionne un peu plus en faveur, ou du moins reste à l'écoute de cette ouverture, ça peut également annoncer probablement des projets chez Google, peut-être en interne. On voit également que Google a développé certaines solutions pour des blockchains. On a l'une des surcouches d'Ether, qui est l'une des crypto-monnaies, qui s'appelle Matic, qui a vu des outils chez Google qui ont été mis en place pour pouvoir communiquer avec cette blockchain. Donc on se rend compte qu'il y a certains déplacements qui à l'heure actuelle, on ne peut pas comprendre, parce qu'on a quelques lignes fuyantes qui peuvent nous laisser sous-entendre quelque chose, mais on ne peut pas comprendre ce que ce géant prépare. Mmh. Mais en attendant, il semble s'ouvrir et être en tout cas plus à même à écouter et à mettre en avant certains projets qui se développent en bonne et due forme dans cet écosystème.
Et ces signaux, vous les avez détectés. Merci de nous en faire part sur BFM Business pour nos auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes quelque part aussi nos lanceurs d'alerte dans cet univers encore un peu confus, hein, quand même pour le grand public, des crypto-actifs qui continuent de se constituer. Est-ce que les autres géants de la tech ont la même politique que Google, Charlie?
Oui, bon, on va pas parler des géants chinois, puisque effectivement, il y a pas vraiment de sujet, puisque là-bas, les cryptos, c'est pas très bien vu du tout. Mais en tout cas, il y a eu Facebook aussi, puisque voilà, quand même, qui est une des plus grosses régies publicitaires au monde, qui a aussi banni toutes les publicités donc liées aux crypto-monnaies et aux ICO en début 2018, donc ces fameuses levées de fonds en crypto-monnaie. C'était lié, effectivement, quand on a eu la folie autour des cryptos, voilà, fin décembre, voilà, 2017, début 2018. Mais c'est vrai que 6 mois après, ils sont un peu revenus en disant, bon, on va pouvoir permettre la publicité, à condition par contre, qu'il y aura un accord écrit, on va vérifier chaque dossier, et ce qui au final n'était pas très étonnant, puisque allez, peut-être 2-3 semaines après, Facebook a publié son white paper, son document de présentation de son fameux grand projet Libra, qui aujourd'hui s'appelle Diem. Donc c'est vrai que ça aurait été un petit peu dommage qu'il ne puisse pas d'ailleurs lui-même faire son auto-promo.
Amazon s'était aussi positionné sur un travail. Alors là, pour le coup, c'était purement technique, mais Amazon avait annoncé travailler sur le protocole Bitcoin et essayer de comprendre comment optimiser les différentes transactions et comment fonctionne globalement la chaîne de blocs et essayer d'optimiser tout ça. Donc, globalement, les géants s'orientent vers, mais on sait très bien qu'un moindre mouvement de la régulation dans un sens ou dans l'autre peut faire que ces géants se rétractent et reviennent en arrière. Donc, à suivre.
Tout ça est fondamental, structurel peut-être pour le monde de demain et en même temps encore extrêmement fragile. Voilà, tout à fait. À l'état du fœtus. Voilà, c'est le monde de demain qui se prépare, mais ça reste très très fragile. Il y en a un qui va nous jouer les Valéry Giscard d'Estaing là sur ce plateau. C'est la réincarnation de Valéry Giscard d'Estaing à nos côtés. C'est Nicolas Chéron. Vous vous souvenez quand Valéry Giscard d'Estaing, sur la musique de la Marseillaise, l'hymne national, nous avait dit au revoir. Vous avez un coup de gueule à pousser en tout cas cet après-midi vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi et pourquoi est-ce que ça vous rapproche de Valéry Giscard d'Estaing? Il faut vraiment nous expliquer, Nicolas, parce que ceux qui nous écoutent doivent s'interroger
rapide,
là.
Un petit coup de gueule rapide déjà. Je voudrais reprendre ce que j'ai dit en fait lors de notre première émission sur les cryptos ici. C'est-à-dire que je trouvais très dommage qu'en France, 99,9% des intervenants qui passaient à la télé au sujet des crypto-monnaies étaient contre, baissiers, et disaient que ça valait zéro, que ce soit des banquiers centraux, des directeurs de banque, des gérants ou des traders. Et donc j'avais reproché à cette communauté française d'être vraiment anti, alors qu'aux États-Unis, des analystes, des banquiers centraux, que sais-je, tout le monde en ce moment analyse et regarde ce qui se fait autour des cryptos. Donc ça, c'était mon premier coup de gueule et je le réitère.
Vis-à-vis des économistes mainstream quelque part et des institutions mainstream.
Voilà. Après, la communauté crypto est très intéressante. J'ai rencontré vraiment des personnes super, Grégory Raymond, Asher, on s'est tous rencontrés tous ensemble, c'est super. Simplement, c'est une communauté où il est très difficile de dire qu'à un moment donné, le Bitcoin pourrait baisser parce qu'on va se prendre des tirs de missiles envoyés par des petits chiens et des émoticônes sur Twitter. Donc la discussion parfois est très complexe. Et en fait, le petit coup de gueule que je voulais passer aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourrait arrêter d'être 100% pour ou 100% contre, s'il vous plaît? J'aimerais pouvoir avoir une discussion nuancée, ne pas dire tout noir ou tout blanc. Moi-même, je ne le sais pas. Je suis curieux de cet avenir, curieux de ces cryptos. Soyons curieux et ouverts à la discussion, s'il vous plaît, ici comme sur les réseaux sociaux.
Excusez-moi, mais c'est un coup de gueule vis-à-vis de la communauté crypto que vous êtes en train de pousser. D'habitude, souvent, dans ce rendez-vous des pros des cryptos, vous poussez un coup de gueule contre les avis un peu mainstream sur les cryptos.
C'est même un peu Twitter, là.
Là, voilà, c'est vis-à-vis de qui vous poussez un coup de gueule?
Ça gazouille beaucoup, je trouve.
Ouais, c'est et les pros, et ceux qui sont vraiment pro, et les anti. Et puis voilà, Twitter, qui est un outil magnifique où on peut tous échanger ou discuter, mais oui, ce serait bien que les esprits se calment et puis que l'été, voilà, nous soit une période propice à tous être un peu plus ouverts d'esprit.
On sait que Twitter, c'est le lieu, c'est le règne de la polémique. Vous estimez que la communauté crypto est plus polémique encore que les Twitter par essence, ou pas?
Non, disons que c'est le sommet de l'iceberg qui est problématique. En fait, il y a vraiment une communauté crypto qui est magnifique. Moi, j'ai des personnes dedans qui m'ont contacté il y a 6 ans pour me dire, Nicolas, faut absolument que tu y ailles, c'est l'avenir. Voilà, je les en remercie encore aujourd'hui, au moins de m'avoir prévenu. Mais le sommet de l'iceberg, les To The Moon, les Sonnen ne peut que monter, les Have Fun Staying Poor. Si vous voulez, à un moment donné, discuter avec vos parents, vos grands-parents, et que les deux générations puissent se parler, ce serait bien qu'on arrête juste de se crier dessus, quoi.
Vous allez continuer de suivre les cryptos quand même ou pas nous?
Je suivrai les cryptos d'un œil très intéressé, mais je vais lever un peu le pied, voilà.
Et c'est Elon Musk, tant que tu en as.
Oui, alors ça fait partie de la chose. Par principe, par essence, je l'ai dit le mois dernier, parler d'un actif ou analyser un actif où un mania milliardaire peut se lever le matin et lui faire gagner 10 ou lui faire perdre 10%, cet actif, du coup, pour un temps donné, ne m'intéresse plus parce qu'il est inconcevable de faire de l'anticipation quand...
C'est la loi de l'offre et de la demande poussée à son paroxysme. Avec des bases communautaires uniquement, forcément, les abus sont également communautaires, tout comme ses réussites.
Et c'est aussi 2021, les réseaux et les influenceurs qui ont fait quelque chose.
Il a poussé son coup de gueule, Valérie Giscard d'Estaing, pas Valérie Giscard d'Estaing. C'était pas un au revoir, mais enfin, on verra. On espère que vous continuerez de nous accompagner sur ce rendez-vous des
projets crypto. On se reverra.
Ceux qui nous seront fidèles verront si ce siège, Nicolas, sera vide ou pas les prochaines semaines. Vide vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des cryptoactifs, c'est une question qu'on va continuer de se poser. Vous nous direz si vous suivez toujours les cryptos malgré quelques attaques, c'est vrai, et cette polémique à répétition dans cet univers et sur Twitter en général. De toute façon, Nicolas Chéron, merci beaucoup. Zone Bourse, Charlie Perrault, le journal du net, JDN à nos côtés aussi, qui m'aide à bâtir ce rendez-vous chaque vendredi, l'architecte à mes côtés des pros des cryptos, Owen Simonin, alias Asher, et sa chaîne YouTube, YouTube, la plus suivie par les francophones sur cet univers des cryptoactifs. Merci à tous les trois de nous rendre visite chaque vendredi. Le CAC 40 est toujours stable et les marchés digèrent bien, finalement bien, ce rapport sur l'emploi américain pourtant décevant. On en parle dans un instant. Christian Parizeau et Vincent Lequertier nous accompagnent pour le club jusqu'à la clôture des marchés. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.